voix nue. Cette semaine, Pierre Chassagneux rencontre Martine Monteil. Ce soir, flic et femme.
Bonsoir Martine Monteil.
Bonsoir.
Hier, on est revenu ensemble sur la grande affaire criminelle de votre parcours au sein de la brigade du même nom. Un passage qui s'est accompagné de grandes évolutions scientifiques et techniques. Alors, en quoi les crimes perpétrés par Guy Georges et puis aussi par un autre criminel, Mamadou Traoré, et que vous avez eu à élucider, ont-ils contribué à ces évolutions ?
Alors, ils y ont contribué parce que nous avons, entre guillemets, également utilisé les parents de ces victimes, si vous voulez. Parce que nous, bon, on n'écoutait pas trop les policiers, les magistrats, enfin, tout. Nous tous, on réclamait depuis longtemps déjà un fichier. Je vous dis, on s'est heurté à tout un tas de ligues diverses et variées qui considéraient que c'était liberticide, etc. Bon, bref. Et donc, derrière ces affaires, mais comme d'autres affaires aussi, d'ailleurs, hein, qui ont, à l'extérieur, de tueurs en série, plus nous ici, on avait eu Paulin, donc Guy Georges, etc. On s'est dit, non, là, ça y est, on comprend bien, quand même, et surtout dans cette affaire Guy Georges, avec la matière que nous avions, on aurait pu éviter deux, si on se place en 95, au moment où il passe ici, et justement, où, comme Paulin, d'ailleurs, en son temps, était passé aussi dans les services, et qu'il n'y avait pas de fichier d'empreinte digitale, et du coup, ça avait échappé aux policiers. Donc, vous voyez, ces fichiers qui brassent en un temps record, et qui font des comparaisons que l'homme ne peut pas faire de cette façon, parce que ça prend beaucoup de temps, et qu'on est contraint aussi par les limites juridiques de la rétention des personnes, bah, et voilà, vous êtes obligé de relâcher l'individu et hop, il vous échappe. Donc ces fichiers sont nécessaires. Et là, on s'est fait aussi aider. Alors nous, en sous-main, moi je sais que j'ai fait passer des éléments, des notes, des fiches à des collègues dont je savais que politiquement ils avaient des accointances auprès de députés, de sénateurs, etc. Il fallait infiltrer, enfin, ceux qui font les lois. Voyez, et qui essayent aussi de faire remonter et qu'on travaille. Et puis, officiellement, et là, on a eu la chance, d'ailleurs, dans Guy Georges, il y a eu un des parents d'une des victimes qui, chacun faisait son deuil à sa manière. Hein. Et lui, c'était peut-être dans ce combat, en disant, bon ben, je vais combattre pour d'autres, parce que ça servira. Il avait compris tout l'intérêt de la création de ce fichier. Donc, et lui, personne oserait dire que c'était une honte et tout, quand vous avez perdu votre fille. Il n'y a que le mur des cons, là, fait par le syndicat de la magistrature. Ils l'ont fait figurer dans le mur des cons, comme moi-même, d'ailleurs. Et je trouve que c'est indécent qu'un père de victime figure sur ce mur. Moi, ce n'est pas grave. Mais lui, oui. Voilà. Bon, ça, parenthèse fermée. Et donc, il a combattu, etc. Donc, vous voyez, personne n'osait quand même contrer la parole de cet homme-là. Enfin, disons que tout d'un coup, il y a une sensibilisation, puis l'opinion publique a changé, l'opinion publique a compris aussi que quand même, il y avait un intérêt, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, vous ne pouvez pas savoir, vous pouvez être confronté, il peut y avoir un enlèvement. Et imaginez, l'ADN, enfin, bon, bref, pour rechercher un coupable peut être déterminant. Bon, donc, ça bascule et on crée ce fichier, donc en 98, en juin 98, donc tout de suite après 10 jours. Alors, on crée un peu petit bras, un hein, petit joueur, c'est-à-dire qui est restreint, parce que réservé aux crimes et délits à connotation sexuelle. Bon, alors, ça, c'est bien gentil, mais par exemple, Guy Georges, il a fait autre chose. Il y avait des vols à roulotte, il y avait des vols simples, il y avait des agressions diverses et variées. Vous voyez, c'est une autre affaire qui aurait pu, si vous voulez, servir de comparaison. C'est-à-dire, à l'occasion d'une autre affaire, sa salive et son ADN donc auraient pu être mis dans le fichier. Donc, il ne fallait pas restreindre. Donc, petit à petit, on élargit après à tous les crimes et délits. Et enfin, c'est en 2003 où c'est vraiment le fichier où, finalement, il y aura un peu tous ceux qui... ça concerne tous les crimes et délits, quoi.
Au début de votre carrière, vous dites avoir fait l'objet d'observations, de vigilance, assaisonné parfois d'un zeste de suspicion de la part de vos supérieurs, surtout de vos subordonnés. Comment est-ce que vous réagissiez face à ces attitudes ?
Suspicion, je voulais dire que ils se posaient des questions sur...
comment elle va faire ?
Oui, ah oui, c'est-à-dire que il a pu y avoir quelques interrogations, je vais vous dire. Au niveau des subordonnés, finalement, ça s'est assez bien passé, c'est-à-dire qu'ils vous testent un peu au début, quand on n'est pas connu. On arrive, on est une femme, il y a pratiquement pas de femmes dans l'active, en police judiciaire, il y en a très très peu, ça vient tout doucement. Ils vous testent un peu. Puis après, quand ils se rendent compte que tout va bien, moi je me souviens en commissariat d'un inspecteur divisionnaire, mais il s'arrachait les cheveux. Parce que lui, il se dit, il n'y a plus le patron, il y a une femme, mon Dieu, oh là 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 là, elle sortira peut-être pas la nuit, elle prendra pas telle. Vous voyez, il avait l'impression que c'est tout retombait sur ses épaules. Il était le numéro 2 du service, en quelque sorte. Et qu'il aurait vraiment tout à faire et que, pour un peu, c'était lui qui serait chargé presque de me, entre guillemets, protéger.
Et ça vous agace pas ?
Ça m'a pas agacé. J'ai compris que cet homme-là n'avait pas pris vraiment la dimension du tandem qu'on allait pouvoir réaliser. Puis ça s'est fait au fil du temps. Mais il a vu que je prenais mes responsabilités, que je conduisais le service, que voilà, je faisais même des changements, des ceci, des cela. Vous voyez que j'étais complètement avec eux, derrière cette petite équipe, que je dynamisais. En plus, moi, j'étais très... J'aime bien la cohésion. Vous voyez, c'est un peu comme dans l'armée, c'est le mot au sens armée du terme, c'est-à-dire tous pour un pour tous, quoi. C'est-à-dire que faut aussi y aller les mauvais côtés. J'exigeais beaucoup de disponibilité, mais en contrepartie, il faut aussi savoir laisser de la souplesse quand il le faut. Quelqu'un qui a besoin d'une demi-journée pour son enfant, pour ceci, pour cela, il faut savoir aussi donner, être souple. Et puis prendre le café avec eux. Les jours de permanence, au lieu de rentrer chez moi déjeuner, je déjeunais avec eux. C'était déjà tristounet d'être bloqué un dimanche, mais bon, alors autant... Moi, j'ai fait des réveillons au service. On a fait des mini-réveillons. Il ne s'agissait pas de faire un réveillon arrosé, vous voyez, parce que si jamais ça sonnait et qu'il fallait sortir sur une affaire, valait mieux garder les idées claires. Mais voilà, on s'amusait, on mangeait notre foie gras, nos huîtres, nos ceci, cela, dans l'attente d'une éventuelle affaire. Tout ça, c'est de la cohésion, vous voyez. Moi, j'ai toujours aimé faire ça. Je trouve que c'est des hommes et des femmes. On est une équipe et il faut être soudés. Donc tout ça, même avec des grands services, ça, vous pouvez le faire aussi. Ça se produit aussi. Donc être prêt des uns des autres. Ce qui fait qu'après, ça passait bien. La hiérarchie, c'est autre chose. La hiérarchie, ils nous ont mené la vie dure. Au départ, j'ai vu, notamment quand j'étais enceinte et que j'ai dû l'annoncer, j'ai déclaré ma grossesse. Alors, ils se sont arrachés les cheveux. Tiens, voilà, avec les bonnes femmes, les emmerdements commencent. Voilà, c'est ce qui a été dit.
Et là, vous dites quoi, là ?
Je dis rien, parce qu'on me le rapporte. Ils ne me le disent pas devant moi, quand même. Mais je sais que ça se dit... Les emmerdements commencent parce que, l'absentéisme, c'est... il n'y a que moi qui peux le faire, c'est pas mon mari, donc... c'est comme ça, vous incite pas d'ailleurs à en faire un second, vous voyez, etc. Enfin, c'était dur. À l'époque, ils vous font travailler, ça, vous vous levez la nuit. Vous vous levez la nuit, vous êtes appelé par les états-majors deux fois la nuit. Des fois, je me suis levée et j'étais enceinte. Et une fois, je suis arrivée sur une dame qui était morte, l'état-major, il y a un cadavre, faut y aller. Bon, j'y suis allée, sauf que moi, je commençais à avoir du ventre, quoi. Et là, il y avait un brave brigadier, donc la police secours, vous voyez, c'est la police, les flics en tenue, quoi. Et alors, il me voit devant ce cadavre, un cadavre qui était découvert comme ça, mais qui était quand même déjà en putréfaction, quoi. Et alors, il me voit mettre mes gants. C'était quand même la moindre des choses, quoi. Au moins, à cette époque, on en avait. Et il me dit, oh là là, patron, il avait un accent un peu provincial. Oh là, patron, vous allez pas toucher ce corps, vous voyez pas dans votre état. Oh là là, mais il faut pas y toucher. Il y a des microbes dans tout. J'ai dit, écoutez, brigadier, je vous remercie, c'est gentil de votre part. Mais, et s'il y a un couteau dans le dos, là, comment on le sait, nous? Attendez, on est sur une affaire, on sait pas si c'est une mort naturelle, une mort criminelle, on en sait rien. De toute façon, j'ai des constatations à faire. Ah, il n'avait pas vu ça sous cet angle, le brave homme et tout. Ah, ben, je vous aide. Enfin, vous voyez, c'était chaleureux, quoi. C'était des hommes, mais qui, voilà. Alors, aucune sollicitude de la part de la direction. Il y avait ici, au 36, des permanences de nuit, c'est-à-dire que vous arriviez à 20h30, 20h ou 20h30, et jusqu'à 6h du matin, vous aviez 4 téléphones et vous répondiez à tous les flics de Paris qui devaient mettre en garde à vue des individus, voyez ? Et pour savoir si vous, donc si juridiquement, ça pouvait se faire, si c'était conforme, et c'est vous qui les mettez, vous aviez un grand registre, vous voyez ? Alors vous aviez un officier de police judiciaire devant vous, et tous les deux, on faisait toute la nuit. Et alors un jour, j'arrive... Et c'était un officier de la brigade criminelle à l'époque, donc un inspecteur principal qui était de nuit garde à vue avec moi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je le retrouverai plus tard et il sera inspecteur divisionnaire à la CRIM. On se retrouvera. Et là, on se voit, puis je vois bien que cet homme, il me dit « Oh là là, parce que là, j'étais bien enceinte quand même. Hein, bien enceinte. » Il me dit « Vous n'allez pas être trop fatiguée là, toute cette nuit et tout Bah écoutez, je dis non, on va résister, vous ne m'acharriez non plus, je suis assise, bon voilà, prends un petit café et tout, bon. Puis à un moment donné, il s'absente, puis il revient avec un lit picot, vous savez, lit picot, un truc en toile, là, de genre camping et tout, il me met dans le bureau, mais c'était généreux cet homme-là d'ailleurs, parce que je l'ai connu, absolument adorable. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce. On n'a pas besoin, vous avez envie de dormir, vous. De toute façon, ça sonne tout le temps, hein, pas trop. On me dit, oui, mais dans la nuit, à un moment donné, vous savez bien, quand même, entre 2h et 4h et 5h, bon, ça. Les coups de fil, il y en a un peu moins, quoi. Bon, bah, je dis, oui, bah, si vous voulez vous reposer, je vais l'amener pour vous et tout. Enfin, c'était vraiment sympathique. Vous voyez, c'est des petits gestes, mais ils viennent de qui ? Des subordonnés, de vos collaborateurs, de ceux qui travaillent avec vous. La gentillesse est toujours venue de là. La direction, ils se foutaient de savoir que vous avez une bonne femme enceinte jusqu'aux yeux, qui passait une nuit. Aujourd'hui, je veux dire, dans les services, notamment privés, etc., même les syndicats et tout, personne, vous voyez, c'est plus autorisé de la même façon, vous voyez, même si je sais qu'il y a quand même des femmes qui font des choses remarquables tout en étant enceintes. Mais je veux dire, peut-être on en prend quand même un tout petit peu plus soin, en tout cas, je l'espère.
En vous écoutant depuis lundi dernier, j'ai l'impression que vous n'avez tiré aucun orgueil à être la première femme. Avoir dirigé les brigades où vous êtes passé.
Non, pas de l'orgueil, de la fierté, et puis beaucoup de bons souvenirs surtout, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses partagées. C'est-à-dire, on a partagé le meilleur et le pire. Voilà. Et on a fait front à tout ça avec, ma foi, des résultats quand même. Plus de bons résultats que de mauvais résultats, donc c'est gratifiant. Et c'est grâce à leur énergie, à tous, à cette énergie, rassemblée de l'ensemble d'un service, des différents groupes, enfin, c'est tout ça. C'est pas la victoire ou le cursus d'un seul homme ou d'une seule femme. C'est quand même, surtout en PJ, j'y reviens toujours, pardon de peut-être de répéter, mais c'est le fruit d'un travail. Nous, on n'est rien si on n'a pas nos équipes. Et nos équipes ont quand même besoin aussi d'un leader, d'un patron, enfin celui qui encadre, mais qui peut donner l'impulsion, qui va les défendre, qui plaide des causes vis-à-vis de la hiérarchie, vous voyez, parce qu'il y a des tas d'affaires où il a fallu se défendre, débattre. Voilà, c'est tout n'est pas simple. Hein. On voit les résultats, les belles affaires, mais on ne sait pas tout le background qu'il y a eu, qui est quand même très intense.
Martine Montaigne, vous avez régulièrement aussi favorisé l'arrivée de femmes dans les différentes brigades que vous avez dirigées, et notamment à la brigade des stupéfiants. Pourquoi ?
Moi, je trouve que c'était utile. Il y en avait quand je suis arrivée, mais très peu. Je crois qu'il y en avait deux ou trois, quoi. Bon, il n'y en avait que deux en groupe, si mes souvenirs sont exacts. Et le reste, il y en avait deux ou trois qui étaient concentrés surtout à l'accueil, la permanence, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas trop du service, quoi. Et j'ai souhaité en faire venir plus parce que je considère que au sein d'un groupe, c'était pas mal. D'abord, je vais dire, ne serait-ce que je m'en étais rendu compte par moi-même, parce que j'ai été utilisée en stup au début, où nous étions peu nombreux, c'est-à-dire que quelquefois, pour faire des surveillances, je me mettais en couple, hein, alors indépendamment des boîtes de nuit, comme je l'ai déjà raconté, mais même dans une affaire, pour passer dans la rue, c'est mieux, bras dessous, dans un restaurant. Moi, je me souviens d'un dîner, entre guillemets, en amoureux, donc en fait, fictif, Mais on était là, voilà. Et puis comme ça, on regardait nos objectifs qui n'étaient pas très loin et on pouvait donner le top de départ, voire éventuellement écouter ce qui se disait à côté. Deux hommes, ça aurait été un peu plus suspect. Vous voyez, enfin, je veux dire, en tout cas, ça, à l'époque, ça passait très bien. Ou alors, dans la rue, une fille qui se balade et qui suit quelqu'un. Bon, ça interpellait moins le voyou, si vous voulez, c'est que un homme ou deux. Alors, a fortiori, deux, quoi. Voilà. Dans une voiture aussi, si vous voulez, un couple dans une voiture, quitte à faire semblant de s'embrasser, ce qu'on voit des fois au cinéma, bon, ça existait un peu. On fait semblant de... Comme ça, ils ressemblent. Et en fait, on regarde, ils passent, ils voient pas notre visage. Ils pensent que c'est des amoureux dans une voiture. Ça permet de s'approcher. Ça permet, voilà. Mais donc les filles, elles ont d'une part cette utilité, ça met du lien, je trouve. Ça permet aux hommes un peu plus de retenue des fois. C'est moins corps de garde, quoi, voilà. Et puis la fille, bien sûr qu'elle a pas les muscles de ses collègues, mais ces filles-là, enfin, faut les choisir. Hein, faut pas que ce soit la midinette qui arrive. Hein, il faut quand même. Moi, j'aimais bien avoir des filles qui étaient structurées, hein, psychologiquement, c'est-à-dire solides, qui vont vivre au milieu des hommes. Donc, il faut pas jouer, voilà, ni les séductrices, ni les chochottes, choquées par ceci ou cela. Des filles bien dans leur peau, qui sont là pour bosser avec les gars et en bonne confraternité, si je puis dire. Donc voilà, ça, je les ai trouvées, quoi. C'est des filles qui sont bien passées dans les groupes, et qui, là aussi, je l'ai expérimenté, c'est-à-dire que nous, dans une bagarre, bah, c'est pas nous qui allons jouer du muscle, mais on est là, on peut barrer une porte en braquant les types, on peut surtout appeler des renforts à la radio, vous voyez, enfin, il y a des tas de choses qu'une femme est utile autrement. Vous voyez, voilà, donc elle peut aussi favoriser, hop, l'entrée à sonner une porte, etc. On n'ouvrira pas forcément à un homme, qu'on ouvre plus facilement à une femme, et là, hop, derrière, il y a du monde, etc., etc. Vous voyez, il y a des tas de choses qui font que les filles se sont bien infiltrées. Alors, par contre, j'en aurais jamais mis deux ou trois. C'est-à-dire, quand vous avez un groupe de six, non, vous voyez, il en faut une. C'est-à-dire que...
Pourquoi ?
Ben parce que il faut avoir conscience du fait que ce métier est aussi un métier physique. Quand ça cogne dur, parce que ça cogne, et c'est pas les flics qui cognent, c'est ceux d'en face qui commencent à cogner. Et là, les flics, ils sont obligés de se défendre. C'est bien normal. Ce qui fait que, bah, la fille, elle, si vous avez trois filles, maillon faible, hein, quand même. Une, bon, je vous dis, elle peut être, et les gars, ils sont là, quand même. Bon. Trois, c'est ça affaiblit un dispositif. Moi, j'ai vu une fois arriver, alors, c'était pas la direction PJ, prenons une autre direction. Une fois, on était dans un squat, dans une affaire de stup. On est tombé sur des types chargés de coke, ils étaient... Ça y allait, hein, ça. Je sentais que ça chauffait, que ça allait castagner. Hein. Bon, faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, j'avais du monde, mais je dis, on ne sait jamais, j'appelle du renfort. Et le renfort le plus proche, c'était le commissariat de sécurité publique, qui était à côté. Il m'amène une police secours, et dedans, il y avait des femmes. Bon, alors, et je les vois. Alors, j'ai dit, surtout, ne le prenez pas mal. C'est pas ça, mais je veux des hommes. Donc, j'ai laissé la femme. Il y en a une qui a barré une rue, l'autre qui gardait le quart. Et puis, j'ai dit, surtout, appelez-moi du renfort encore. Là, j'en veux d'autres, mais des hommes. Là-haut, ça cogne fort. J'ai besoin d'hommes. Et donc, on m'a envoyé... vous voyez, c'était pas pour les mettre à l'écart, pour les maîtriser. C'est une question de bon sens, juste, voilà, c'est tout. Un dispositif, c'est aussi un dispositif où les choses peuvent très bien se passer, puis ça peut dégénérer, voilà.
En 1991, vous dirigez la Brigade Mondaine, et un hebdomadaire féminin vous consacre en vous élisant femme de l'année. Comment est-ce que vous gérez cet honneur qui vous est fait ?
Alors là, j'étais... c'était tout drôle, parce que moi, j'étais pas habituée à tout ça. J'ai dit, bon, oh là là, concourir pour femme de l'année, l'année 90, c'est vrai que ça a été marquant. Bon, bah, pourquoi pas, il y avait d'autres femmes, en fait. C'est vrai que...
Mais c'est vous qui choisissez.
Oui, ils choisissent, ils me choisissent, moi. Mais j'étais au milieu d'autres femmes remarquables, quoi. Il y avait d'Estivelle, je crois, vous voyez, celle qui grimpait là, la montagne, l'alpiniste. Enfin, j'étais très admirative aussi, je veux dire, les autres l'auraient mérité autant que moi. Je pense qu'ils m'ont choisi moi parce que c'était, à l'époque, c'était encore étonnant, vous voyez, c'est-à-dire des femmes patrons dans un univers d'hommes, c'était rare, et il y en avait, bien sûr, ça suivait derrière, hein, et fort heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai que c'était encore assez rare, donc je crois qu'ils avaient cette volonté de mettre ça en exergue, donc j'ai eu droit à tous les honneurs.
Votre histoire fait de vous une pionnière, une défricheuse, et je ne vous ai jamais entendu oser le qualificatif de féministe vous concernant, alors que, bien évidemment, c'est pas un gros mot.
C'est surtout pas un gros mot. Et moi, je ne suis surtout pas anti-femme. Et je n'aime pas le qualificatif de féministe. Et actuellement, d'ailleurs, les courants qui aussi ont quelquefois une connotation.
Il y en a beaucoup.
Oui, justement. Et là, c'est trop. C'est-à-dire qu'il faut l'équilibre. Bien sûr que moi, je suis pour la défense des femmes. Et je souhaite qu'il y ait des femmes partout. Ce que je n'aime pas, c'est ce côté militante quasiment anti-homme. Peut-être parce que j'ai travaillé au milieu des hommes toute ma vie, mais au milieu des femmes aussi, parce qu'entre-temps, il y en a eu heureusement beaucoup qui sont arrivés, mais raisonnablement, et surtout, je ne suis pas déçue, quoi, je veux dire. Vous voyez, j'en garde un très bon souvenir, excellent souvenir. Féminisme, non, parce que j'aime pas ce militantisme. Et par exemple, je n'aime pas cette façon de dire « il faut un quota ». C'est ridicule. Il faut pas un quota, il faut des compétences. Il faut la bonne femme, pas la bonne femme, la femme la meilleure.
La bonne personne.
La bonne personne dans le bon poste, c'est tout. Et qu'elle le veuille, etc. Vous voyez, il y a un certain nombre de critères. C'est pas en disant, ah, on va en mettre tant, on le voit au niveau des ministres, il y a eu des choses absolument catastrophiques, quoi. Bon, d'ailleurs, il y a eu aussi des femmes qui n'ont pas réussi. C'est pas utile de mettre des il y a des gens qui ne veulent, mais moi dans mon métier, moi j'ai eu des collègues qui m'ont félicité pour mon parcours, j'ai toujours eu beaucoup d'encouragement de la part des femmes policiers qui étaient très 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 solidaires justement, et bon, ça c'est, j'ai toujours trouvé ça très très chaleureux et ça m'a toujours fait plaisir. Et j'ai même des collègues qui m'ont dit bon bah, quel parcours, vous voyez, quand je suis arrivée évidemment dans les postes de direction. Et j'en ai quelques-unes qui m'ont dit, mais moi, ça, alors par contre, on te suit, t'es notre exemple, mais on n'ira pas jusqu'à ces postes-là. Pourquoi ? Comme dans des entreprises, il y a des femmes qui ne vont pas sur ces postes de PDG, vous voyez, de président de groupe, etc. Il y a des femmes qui ne veulent pas aller en politique, et quand on les pousse, c'est une horreur, si c'est un peu contre nature, en disant, faut y aller, faut une femme, etc., faut une femme à tout prix. Il faut que la femme, elle adhère.
Mais il y en a aussi qui le désirent et qui n'ont pas l'opportunité parce que ça vous surprendra ça, pas drôle. Le machisme encore de beaux jours devant
tout
lui.
Tout à fait. Et ça, il faut lutter contre. Mais il faut aussi que la femme ait cette adhésion. Parce que si vous la forcez, vous voyez, c'est-à-dire que ces femmes-là, ce qu'elles refusent, les collègues auxquels je faisais allusion, c'est parce qu'elles ne voulaient pas sacrifier leur famille. Parce qu'il y a, vous avez une disponibilité qui est nécessaire et qui est hors du commun. C'est valable dans les grands groupes. Vous n'avez plus de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut le savoir. Une femme qui réussit dans des grands groupes, elle sacrifie beaucoup. Bah, alors, elle a les moyens. Hein. Moi-même, on n'a pas autant de moyens, nous, dans la fonction publique, mais j'ai quand même, évidemment, financièrement, fait beaucoup de sacrifices pour qu'au niveau de la famille, ce soit la stabilité, qu'on s'occupe de la famille, du ménage. Vous voyez, d'être délestée de tout un tas de choses qui sont réservées aux femmes. Ce sont des choix. Dans la politique, c'est pareil. Après, faut se dire que, ben voilà, dimanche, jour férié, on est sur les marchés, on va couper des rubans, on va faire ceci, on va faire cela. Enfin, on se dévoue. Encore faut-il le vouloir. Donc, il y a des femmes qui le veulent. Mais je veux dire, cette espèce d'automatisme, de quota, je trouve ça ridicule. Et du coup, il y a quand même des échecs à cause de cela. Alors que quand la femme est volontaire, il faut tout faire pour l'y aider, par contre. Et c'est vrai. Là, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles.
Alors, je poserais exactement la même question à un homme si je l'avais en face de moi. Mais comment vous avez pu concilier cette vie de fonctionnaire flic, d'épouse et de mère ?
Eh bien, en étant organisé, c'est-à-dire, voilà, il faut se dire qu'on laisse sa maison sous bonne garde, c'est-à-dire une bonne nounou, femme de ménage, si on cumule les deux, c'est formidable, etc. Vous voyez, qui fait les courses, qui va nourrir la petite famille, préparer un repas, attendre, et qui est, d'ailleurs, c'est très simple, il faut s'organiser aussi. Moi, je me suis organisée pour que ces personnes soient, en fait, logées. Comme ça, si vous devez partir, comme certaines affaires d'attentats ou d'affaires tout simplement plus médiatiques que gravissimes, comme Lady Di ou des choses comme ça, où il arrive quelque chose et ensuite on vous revoit 48 heures après chez vous, quoi. Donc il faut bien qu'il y ait une intendance à domicile, ça c'est impératif. Mais le service d'abord, la mission d'abord.
Martine Monteil, après ces... ces différentes carrières en brigade centrale, vous avez été nommée directrice régionale de la police judiciaire d'Île-de-France, puis directrice nationale de la police judiciaire. Au final, il ne manque à cette longue carrière que le poste de directrice de la police nationale. Est-ce que pour vous c'est un regret, et par extension, est-ce que le partage des responsabilités hommes-femmes inhérentes aux évolutions de la société n'a pas encore la peau trop dure ?
Non. Alors je veux, à titre personnel, je n'ai aucun regret. C'est-à-dire qu'après direction centrale, il est évident que j'avais passé presque 5 ans à la tête de la DCPJ. J'ai eu la chance d'avoir travaillé avec un directeur général remarquable qui était Michel Gaudin, qui n'a pas dû être trop insatisfait de mes services, et qui, lorsqu'il a été installé préfet de police ici à Paris, là, m'a offert la possibilité de venir à ses côtés en qualité de préfet. Donc il m'a fait rentrer dans la préfectorale et au poste donc de préfet secrétaire général de la zone de défense de Paris, qui a été un poste tout à fait passionnant, un défi que j'ai relevé. Et honnêtement, donc je n'ai pas de regrets de ne pas avoir, enfin, d'aucuns y ont pensé à un moment, puis bon, les choses se font. Ça devient des postes très politiques, de toute façon, hein, vous êtes quand même... déjà, DCPJ, vous voyez, je trouvais que la proximité du ministre de l'Intérieur était quand même forte. Bon, voilà. Alors, moi, c'est pas que je n'aimais pas, mais enfin, bon, vous subissez au quotidien, il y a une pression, etc. Bon, voilà. Donc, personnellement, je n'ai aucun regret, et je me suis vraiment épanouie, et surtout, j'ai eu un bonheur, mais que vous ne pouvez imaginer, qui a été celui de revenir à la préfecture de police, j'ose le dire, donc, et auprès de Michel Gaudin. Donc c'était vraiment le bonheur absolu.
Avant que l'on ne se quitte, j'aimerais que vous me commentiez et que vous m'expliquiez ce que vous ressentez avec cette citation qui ouvre votre biographie, une citation que l'on doit à Victor Hugo. Quand tout se fait petit, femme, vous êtes grande.
Écoutez, je suis assez d'accord. Les femmes, nous, on a peut-être, faut bien un petit peu dire aussi qu'on a quelques qualités, n'est-ce pas, messieurs, cette opiniâtreté. Et puis nous, les femmes... c'est ça, on s'accroche au truc. Hein. Je l'ai vu chez d'autres filles, hein, dans le travail, hein, des collaboratrices, des enquêtrices, des officiers, quel que soit le niveau, vous voyez, sentez, à l'agnac, ce que j'appelle l'agnac, elles sont têtues, vous voyez, têtues, donc ça j'aime bien. Elles font ce qu'elles disent, elles disent ce qu'elles font, elles font ce qu'elles disent. Voilà, c'est-à-dire, des fois les hommes, ils parlent et puis ils font pas toujours. Et les femmes, quelquefois, contrairement aux idées reçues, parlent des fois moins, mais elles font, elles agissent. C'est vrai, c'est un peu dans ça. Moi, si je devais un petit peu nous sublimer, entre guillemets, par rapport aux hommes, c'est un peu là-dessus. Mais quand vous avez cité Victor Hugo, je pensais que vous utiliseriez une autre citation que j'ai mise dans mon livre, qui est celle-ci, qui est « Les crimes de l'homme commencent au vagabondage de l'enfant ». Et je trouve qu'elle est extraordinaire, cette citation. En fait, l'éducation nationale, c'est pour moi, bien sûr, ministre de l'Intérieur aussi, mais l'éducation nationale, c'est majeur, majeur. Tout vient de l'éducation.
Merci beaucoup, Martine Montaille, d'avoir passé cette semaine entière avec nous.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Pierre Chassagneux avec Martine Monteil. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Marc Garvenès, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.